Nous avons essayé la dernière fois de montrer comment l'intelligence interrogeant qu'est-ce que c'est que l'acte dans l'être, qu'est-ce que c'est que ce qu'il y a d'ultime dans ce qui est vu du point de vue de l'être. L'intelligence en interrogeant, en recherchant la fin, ce qu'il y a de dernier, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. L'intelligence regarde différents domaines, le domaine de notre vie végétative, puisque c'est là où en premier lieu peuvent se faire les confusions entre l'être et le devenir, et en même temps là aussi où nous pouvons le mieux saisir ces deux états, un état d'attente, de repos, et un état d'éveil. C'est très fondamental par rapport à la vie végétative. Et je crois qu'on a raison de commencer par le point de vue de la vie végétative, puisque c'est là où nous découvrons ce que représentent les confusions possibles. Voyez, c'est curieux qu'Aristote, au fond, a saisi ça, et par rapport à l'hégélianisme, je crois que c'est là où on doit revenir. Puisque l'hégélianisme, confondant l'être et le devenir, le fait en fonction de la vie. C'est parce qu'on ne dépasse pas le point de vue de la vie qu'on n'arrive plus à discerner avec suffisamment de netteté le point de vue de l'être et du devenir. Et donc c'est bien par rapport à l'opération immanente du vivant qu'on doit essayer de découvrir ces deux états. Ces deux états ne sont pas la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance. C'est descriptif. Vous pouvez décrire votre réveil du matin. Comme vous pouvez décrire le réveil du matin du chat ou du lion. Chaque animal se réveille à sa manière. Et parmi ces animaux se situe l'homme qui se réveille lui aussi. Et c'est vrai, un enfant ne se réveille pas de la même manière qu'un homme adulte. C'est intéressant de voir le réveil de l'être qui émerge par rapport à ce que représente le repos, la détente profonde. C'est le même être, substantiellement, dans son immanence vitale, qui a ces deux extrêmes. Donc, ça pose un problème au point de vue philosophique. Comment un être qui est le même substantiellement peut-il connaître ces deux extrêmes? On pourrait peut-être faire la même chose à propos de la croissance. Aristote ne le fait pas, mais on pourrait peut-être le faire le même, voyez, et s'en servir. Le tout petit enfant et l'homme adulte, c'est le même qui connaît cet état de capacité de croissance et qui est dans l'état de croissance. On pourrait faire le même parce que biologiquement, on découvre que c'est le même vivant. Et donc, substantiellement, c'est le même qui a cet état de croissance. Alors, est-ce que l'état de croissance ne nous aiderait pas aussi à constater des états différents, une capacité virtuelle à passer de l'état d'imperfection à l'état de perfection? Alors là, on rejoint une expérience de l'état d'imperfection à l'état de perfection. C'est le même être qui connaît l'état d'imperfection et l'état de perfection. Et connaissant ces deux états, d'état d'imperfection et d'état de perfection, on peut donc discerner dans le même vivant deux extrêmes. Vous voyez, il faut que nous essayions de renouveler un peu la piste que nous donne Aristote face à Hegel. On peut aussi reprendre alors ce que fait Aristote, ça c'est dans l'ordre du facere. Et le facere a cet avantage, c'est que il est ce qu'il y a de plus conscient en nous. Et l'état de repos et l'état de veille À l'inconvénient, c'est que l'état de repos, vous n'en êtes pas conscient. Sauf quand vous dormez mal. Mais justement, ce n'est plus l'état de repos. Et donc, l'état de repos, c'est justement quand il y a une espèce de perte complète de la conscience. Et donc, vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le saisir de l'intérieur. Tandis qu'au contraire, dans le fat chéré, vous saisissez les deux états. Vous voyez, c'est des exemples qui sont intéressants à voir et chacun ont leur caractère propre. Et c'est ça qu'il faut saisir. Et autant que possible, ce serait ça qui serait intéressant à faire, autant que possible, saisir les pointes extrêmes de nos diverses activités. Puisque de fait, nous faisons cette induction au terme de la philosophie. C'est vrai, l'induction qui commande tout le reste. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a donc le fat chéré. Il y a l'agir, il y a la coopération, il y a le point de vue du devenir et le point de vue du vivant. Et ajoutons le point de vue de la substance. Alors, est-ce que toutes ces parties de la philosophie ne doivent-elles pas nous aider à saisir les deux états ? Et c'est là qu'on pourrait reprendre et refaire l'induction aristotélicienne d'une manière plus patente pour nous, plus consciente. On est plus conscient qu'Aristote de ces diverses parties de la philosophie. Ça, c'est sûr. Parce qu'Aristote, lui, il est le premier, il nous donne des pistes, et nous devons en prendre conscience. Alors, nous comprenons très bien les deux extrêmes du vivant, le repos et l'éveil. Nous comprenons très bien les deux extrêmes du fatchéré. Et vous voyez, il y a une expérience type là, il y a une expérience type là. Et elles sont irréductibles, ces expériences. C'est ça qui est important de saisir. Ce sont des expériences irréductibles. Et alors, il faut se demander si, en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, et nous reprenons toute notre philosophie. Nous mobilisons toute notre philosophie, toutes les parties de la philosophie. Normalement, la philosophie première arrive au terme. Si elle n'arrive pas au terme, évidemment, on comprend bien que dans cette induction, d'une certaine manière, tout est mobilisé. Alors, vous voyez bien que lorsqu'il s'agit du fat chéré, c'est la capacité dans l'ordre de l'art, capacité de réalisation. Ça, on en est conscient, puisqu'on a acquis cette capacité de réalisation en l'exerçant. Vous êtes capable de faire une fenêtre. Si vous en avez déjà fait une. Si vous n'avez pas fait encore une, vous ne savez pas si vous êtes capable de le faire. Vous avez vu le menuisier la faire devant vous, et puis il vous fout un rabot dans les mains, faites-le. Et bien vous arrivez petit à petit. Mais une fois qu'on est arrivé à faire quelque chose, une heure, on sait qu'on est capable de cette heure. La capacité de réalisation et la réalisation elle-même de choses. Oui, au fond, c'est l'expérience du travail que vous trouvez ici. Le travail qualitatif. À l'intérieur du travail, vous avez deux aspects. Vous avez la capacité de travailler et puis le travail lui-même, ordonné à l'œuvre. Oui. L'œuvre fait toucher quelque chose qui est interne. Exactement comme l'éveil, d'être éveillé me fait toucher un terme, au point de vue du vivant. Un vivant éveillé, c'est celui qui est parfaitement vivant. Un vivant qui dort n'est pas parfaitement vivant. Un vivant qui se repose n'est pas parfaitement vivant. Parce que la finalité du vivant, c'est d'être éveillé. C'est d'être parfaitement lui-même, comme vivant. Alors il est parfaitement lui-même, vous voyez, parfaitement lui-même. C'est de saisir peut-être les modalités, les états différents, les modalités qui nous font toucher quelque chose d'ultime. Alors, vous avez ensuite, dans l'ordre de l'agir, dans l'ordre de l'agir, Aristote prend l'exemple de la contemplation. Nous pourrions prendre aussi l'exemple de l'amour d'amitié. Et c'est important de prendre les deux. Parce qu'au fond, dans l'ordre de l'agir, nous savons bien. Il y a comme deux finalités, il y a donc deux termes. C'est pour compléter, encore une fois, cette induction analogique. Je vais me servir de tous les termes, telos, que je saisis, dont j'ai l'expérience. Alors j'en ai deux, la contemplation, qui est le terme dernier, et puis l'amitié. Et je vois bien, dans l'ordre de l'amour d'amitié, qu'il y a un repos, la capacité d'exercer et de rencontrer l'ami, et au contraire, l'exercice lui-même, et qui est le fait de s'aimer et d'être un dans cet amour. Dans la contemplation, la capacité de contempler et de contempler. Dans la coopération, c'est beaucoup plus délicat ça. Le terme de la coopération, c'est quoi? C'est le bien commun. C'est un certain terme immanent. Alors, est-ce que ça ajoute quelque chose? Ça, c'est là une grande interrogation. Est-ce que ça ajoute quelque chose? Est-ce que ça ajoute vraiment une expérience irréductible du côté de l'acte de la puissance? C'est pas la peine de s'encombrer de quelque chose qui n'est pas irréductible. C'est pas la peine, parce que c'est déjà assez complexe. Il faut laisser tomber. Et on doit faire la question, on doit se poser la question. On doit se poser la question, est-ce que du côté de la coopération, j'ai quelque chose d'irréductible par rapport à l'agir et au faturé? Oui. Le faturé et l'agir, ça c'est net. Puisque le terme immanent de l'amour, tandis qu'ici, c'est le terme externe, extérieur, qui assume la matière. L'œuvre est extérieure à mon travail, alors que la contemplation est immanente et l'amour d'amitié est immanent. Donc le terme est immanent, c'est l'amour. Ah, vous allez me dire, le terme c'est l'ami, oui, à travers l'amour. Donc il est immanent. Alors, est-ce que dans la coopération, y a-t-il vraiment quelque chose de nouveau? Oui, c'est ça qui est toujours très intéressant à se poser, parce que c'est pas commode du tout. Est-ce que la coopération apporte du côté de ce qui nous intéresse ici? C'est-à-dire deux états extrêmes du même individu, de la même substance. Est-ce que la coopération apporte quelque chose de nouveau? Je coopère avec un autre. Nous avons vu que la coopération, ça devient un plus trois. Alors est-ce que, parce qu'on ne peut pas coopérer vraiment quand on est uniquement à deux. On coopère toujours quand on est trois. Grand mystère des trois. La coopération, c'est les trois, toujours. Il n'y a communauté que quand il y a trois. Et donc, il y a une coopération à trois. Alors, est-ce que dans la coopération, ça apporte quelque chose de nouveau? Est-ce que la coopération me donne un sens très particulier de l'efficacité? Ou est-ce que l'efficacité est parfaitement donnée au niveau de l'œuvre? Personnellement, je crois que la coopération ne m'apporte aucune expérience nouvelle. Je crois. Il faut y réfléchir. C'est toujours très difficile. C'est toujours très difficile la question de la philosophie de la communauté. C'est toujours très difficile, oui.
Si on prend le point de vue de l'impérium.
Ah, l'impérium, il est ici. Hein.
Oui,
l'impérium est particulièrement net, nous le verrons, du côté de la coopération. Alors, est-ce que du côté de l'impérium, y a-t-il quelque chose de nouveau? Vous avez raison de soulever le problème. Nous le verrons en éthique. Et alors en éthique, on y pensera. Oui. On pensera si de fait, du côté de l'impérium, l'efficacité, du côté de l'impérium n'est parfaitement lui-même que quand je commande un autre. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que l'impérium, qui est une expérience type, ça, c'est sûr. Est-ce que l'impérium va apporter quelque chose de nouveau, d'irréductible? Posez le point d'interrogation. Oui. Et nous le traiterons en éthique. Et non pas ici. Vous voyez? Ça présuppose l'éthique. Hein, ça. Bon. Alors, du côté du devenir, c'est le point de vue de la matière et le point de vue de la forme. La forme capable d'être séparée et la matière capable d'être informée. Il y a la distinction entre les deux. Il y a le logique. Vous voyez, j'ai donc de fait toutes les diverses expériences. Il y en a une qu'Aristote donne, le point de vue de l'achèvement. Alors est-ce que du côté de l'achèvement, c'est le côté de la coopération? Ou est-ce que c'est simplement alors, la substance, vous voyez, la substance, dans le sens que la substance peut être prise dans deux états différents, ce n'est pas le vivant, ce n'est pas l'éveillé, pas éveillé, c'est la substance séparée. Et je crois que ça revient à ça. Les deux se tiennent. La substance séparée qui peut subsister en elle-même ou la substance unie à la matière. La substance séparée parfaitement d'un acte et la substance unie à la matière. Et vous voyez, ça se rejoint. C'est les deux expériences. Et il me semble que ce sont les deux liés qui permettent justement de mieux comprendre ce qu'il peut y avoir d'irréductible. Parce qu'au niveau purement physique, vous n'avez jamais l'expérience de la matière séparée. Donc vous ne pouvez pas regarder deux états. Tandis qu'au niveau de la substance, on peut parler de deux états. Une substance qui peut être séparée et la substance unie. Alors ce serait là le lien entre les deux. Vous auriez donc, vous voyez, de ce point de vue-là, vous avez donc ces quelques expériences dans les différents niveaux, tous les niveaux que le philosophe a abordés. Il voit deux états différents qu'il peut décrire. Et chacun de ces états a quelque chose d'irréductible. Chacun de ces états touche quelque chose d'unique. Alors, je me pose la question, quel est l'ordre qui existe entre ces deux états, ce que nous avions vu. Quel est l'ordre qui existe entre chacun de ces états? Je vois que c'est un ordre analogue, que toujours l'état de perfection s'impose comme étant ce qui donne la signification à l'autre. Comme ces expériences sont à des niveaux différents, qu'il y a quelque chose d'analogue, le quelque chose de commun, c'est vraiment l'être en puissance et l'être en acte. Ce qui est nouveau, parce que la substance comme telle n'est pas l'être en puissance. Et donc il y a quelque chose qui relativise la puissance, c'est de regarder l'être en puissance, l'être et l'être en acte. Vous voyez, c'est le dépassement, c'est ça le point de vue le plus difficile, hein. C'est le dépassement de la substance par rapport à l'acte. Il faut comprendre que la substance comme telle n'est pas l'aspect ultime de l'être. Et toutes ces expériences me montrent que la substance n'est pas l'aspect ultime de l'être. Que l'exercice vital n'est pas l'aspect ultime de l'être. Que le travail n'est pas l'aspect ultime de l'être, puisque ça c'est l'exercice pleinement conscient. Qu'il faut donc dépasser ces différentes modalités pour arriver à saisir ce qu'est l'être en moi, distinct de l'être en puissance. Ça, c'est le petit koinon, ce qu'il y a de commun à tous ces états. C'est au niveau de l'être. Et ceci se découvre à l'intérieur même de cette intuition. Il y a là quelque chose qu'il faut soi-même découvrir. Je vous indique, je ne peux pas faire autrement. L'induction, je ne peux pas la faire pour vous. L'induction est un acte de l'intelligence que nous devons faire nous-mêmes. Et la déduction, c'est très différent. Hein. La déduction suit le raisonnement. Hein. Ordinairement, la déduction, hein, on la pense logiquement, c'est tout. C'est très rare hein, qu'on la repense métaphysiquement. Parce que pour la repenser métaphysiquement, ça c'est vrai. Alors, il faut avoir saisi les principes, donc il faut avoir saisi l'induction. Alors, il faut refaire cette démarche soi-même, en comprenant cette diversité, et en comprenant l'au-delà de cette diversité, ce quelque chose de commun qui est au niveau de l'être. Et ce quelque chose de commun qui est au niveau de l'être, puisque aucun autre niveau ne fait que la chose commune. La vie s'oppose au devenir, le devenir et la vie s'opposent à l'agir, sont irréductibles. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que chacune de ces expériences est irréductible. Elle a quelque chose d'unique. Si elle a quelque chose d'unique, elles ne peuvent pas s'identifier ou s'éliminer. Elles sont toutes nécessaires. Et qu'est-ce qu'il y a de commun à travers toute cette diversité? Uniquement au niveau de l'être. Ce n'est pas la substance. Ce n'est pas le vivant, ce n'est pas le devenir, au-delà de tout ça. Oui, c'est vraiment la démarche inductive dans toute sa pureté pour saisir ce qu'il y a de commun à travers tous ces différents états. Ce qu'il y a de commun, c'est qu'en effet, il y a un passage de l'être en puissance et de l'être en acte. Chaque fois, selon des modalités différentes, le passage de l'être en acte et de l'être en puissance. C'est l'induction qui me permet de découvrir ça. Alors comprenez bien, le point de départ, ce sont des états différents que je peux décrire. Tout le monde peut comprendre ce point de départ. Hein. C'est pas très... Il suffit tout simplement de comprendre les différents aspects. Alors tout le monde peut comprendre. Laissez de côté la coopération pour le moment, nous la comprendrons en éthique, n'est-ce pas ? Mais tout le monde peut comprendre ces différents états. On peut comprendre ces états particuliers devant lesquels se trouve le point de vue de ces réalités que je constate. Tandis que lorsqu'il s'agit de découvrir l'être en acte et l'être en puissance, je ne suis plus à un niveau descriptif. Mais c'est le passage de l'aspect descriptif visible à l'invisible. Et c'est ce passage du visible à l'invisible qui me semble être capital au point de vue proprement induction. Et c'est ce passage qui me permet de dire que quand je saisis l'être en acte, l'être en puissance, je ne suis plus au niveau d'un état, mais je suis au niveau d'un principe. L'être en acte, c'est ce qui achève, ce qui termine, ce qui est la fin de l'être. Alors, cet être en acte, cet être en puissance se retrouve dans toutes ses modalités, mais il les dépasse. Il est présent dans toutes ces modalités. Il n'est pas extérieur. Il est présent. Mais je purifie toutes ces modalités. Il y a une purification dans l'induction. Parce qu'il y a une abstraction. Je me dépouille. Vous voyez, c'est pour ça que c'est une abstraction d'un type très particulier. C'est l'abstraction qui consiste à passer des modalités particulières à la saisie de l'être. De passer de ces diverses descriptions à quelque chose qui est présent dans ces descriptions, qui est l'être en acte. Alors, ça, nous devons essayer de le saisir. Hein. C'est le propre de l'intelligence de saisir ça. Oui ?
Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ma connaissance pratique et de ma connaissance spéculative ?
Je ne suis pas au point de vue pratique ici, je suis au point de vue spéculatif. Oui, oui, ça c'est deux choses différentes. Le niveau pratique, c'est l'expérience du point de départ. Une expérience au point de départ peut être éclairée par une interrogation qui, elle, est spéculative. C'est l'interrogation. C'est l'interrogation qui commande toujours le point de vue spéculatif et le point de vue pratique. Oui, c'est l'interrogation qui oriente l'intelligence. L'intelligence est orientée vers une recherche de la vérité pure. Et je sais bien que je suis en face de la vérité pure, puisque j'ai de fait mêlé dans ces différents niveaux les différents aspects que je pouvais connaître avant. Oui. Alors c'est l'intelligence dans sa recherche de la vérité, c'est l'intelligence poussée dans sa recherche de la vérité, elle veut savoir qu'est-ce que c'est que l'être, le ti esti de l'être, hein, n'oublions pas, c'est ça qui commande tout. C'est le ti esti de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Or, nous voyons que nous ne pouvons pas nous arrêter à l'être substance et qualité. Nous devons aller plus loin, parce qu'il y a des débris de l'être qui ne tombent pas dans cette distinction des miettes. Hein. Il y a des miettes de l'être qui ne tombent pas dans la distinction substance et accident. Et des grosses miettes, là, puisque c'est l'aspect le plus important de l'être, l'être en âme. Que je ne peux pas ramener à la substance et à la qualité. Je suis donc obligé de saisir dans l'être quelque chose de nouveau. Comment je saisis ce quelque chose de nouveau? Je le saisis en me servant de ces diverses expériences. Et ces diverses expériences obligent l'intelligence de faire ce bond. Le saut de Kierkegaard, hein, puisque c'est Kierkegaard qui appelle ce saut de l'intelligence, et lui le dit pour qu'il confond, du moins ne distingue pas induction et démonstration a posteriori, mais c'est très vrai qu'il y a un saut de l'intelligence. C'est l'intelligence passe de l'aspect descriptif à un aspect saisi d'un principe. Il y a un saut. Il y a une discontinuité tout en ayant une continuité. C'est ça qui est très difficile à bien saisir. Les pagogies, l'induction, c'est une chose très difficile à saisir parce qu'il y a continuité, c'est bien évident. J'ai besoin de cette expérience. Et pourtant, je vais plus loin, je décolle. Mon principe se tient par lui-même. Quand je saisis l'être en acte et l'être en puissance, je n'ai plus besoin de la base. J'ai décollé. Et je saisis l'être en acte et l'être en puissance. Ça, c'est difficile. Je sais très bien. C'est pour ça que je reviens. Pour que votre intelligence au moins se pose une fois la question. Que vous compreniez qu'il y a une interrogation. Je ne vous demande pas de saisir. Parce que ça, ça ne dépend pas de moi. Et ça ne dépend pas de votre volonté. Ça qui est très curieux. Ça ne dépend pas de votre volonté. C'est vrai, l'acuité de mon intelligence ne dépend pas de ma volonté. Je veux entrer dans la métaphysique. Ah oui, je sais bien que vous avez toute cette bonne volonté. Mais ce n'est pas parce que vous avez la bonne volonté d'entrer dans la métaphysique, voilà le point de vue pratique. Ce n'est pas parce que vous avez la bonne volonté d'entrer dans la métaphysique que vous y entrez. Non. Il faut même quelquefois pas trop de volontarisme. Parce que si vous avez trop de volontarisme, votre intelligence, alors, se tant inutilement. C'est ça qui est très délicat. Il faut à la fois une attention et une détente. Parce que l'intelligence ne fait ce bon que quand elle est dans une espèce de détente. Si elle est dans une tension trop grande, il y a un volontarisme à la manière de Kant, empêche d'entrer en métaphysique. C'est sûr. Si vous êtes trop moraliste, vous n'entrerez jamais dans la métaphysique. Il faut une détente de l'intelligence particulière pour que l'intelligence retrouve son état natif. C'est l'intelligence dans sa pureté même d'intelligence qui veut aller plus loin et qui veut saisir. Comment mon intelligence est capable? Alors, il y a un petit exercice très simple. Hein. C'est vrai, c'est un petit exercice, c'est l'intelligence. Il faut huiler notre intelligence hein, pour que ça marche, si elle est un petit peu trop. C'est vrai, vous n'avez encore jamais fait ça de votre vie, l'induction. Vous n'avez jamais appris de faire une induction. La première fois que vous devez sauter à un mètre de hauteur, hein, vous foncez sur l'obstacle, et puis vous ne le faites pas. C'est vraiment l'intelligence qui saute un obstacle. C'est l'intelligence qui doit retrouver son état natif. C'est dans ce sens-là qu'il y a une purification de l'intelligence. Et une vraie purification de l'intelligence. Et on doit le faire tout le temps. Il ne faut pas croire parce qu'on l'a fait une fois. Non, on l'a fait une fois dans sa vie. C'est déjà quelque chose. Fait une fois ce saut périlleux. Alors, vous comprenez qu'on peut le faire de cette manière. C'est que je peux voir chacune des expériences. Voir à travers cette expérience d'être en acte et d'être en puissance. À travers cette expérience, d'être en acte, d'être en puissance. À travers chacune de ces expériences, je peux le faire. Je vois en effet, mais oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui demeure et quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui demeure dans le fait de chérir. Il y a Pierre qui travaille. Hein, Pierre qui travaille. Et Pierre qui est capable de travailler. C'est le même Pierre. Il travaille et il est capable de travailler. Rien n'est changé à Pierre substantiellement. Tout est changé pour la galerie. N'est-ce pas? Il travaille. Tandis que je peux faire la même chose au point de vue d'Algérie. Je suis capable d'aimer. Mais je n'exerce pas. Je me suspends. Je suis capable de contempler. Très vrai. toujours l'aspect substantiel qui demeure le même dans deux états différents. Alors, vous me dites, qu'est-ce que ça représente, ces deux états? Qu'est-ce que ça représente, ces deux états, ce passage, capacité de travailler, travailler? Vous faites ça instinctivement, d'habitude, c'est bien évident, vous faites ça instinctivement. Capable de travailler. Vous voyez, le petit impérium hein, qui passe toujours là. Vous êtes capable de travailler, je m'y mets. Puis l'autre qui dit, je suis capable de travailler, ça me suffit. Ça me suffit, je suis capable de travailler. Je l'ai fait une fois dans ma vie, j'ai fait une fois une fenêtre dans ma vie, je suis capable. Je suis un menuisier, je suis capable de le faire. Ah oui, mais faites-le encore une seconde fois, parce que vous êtes capable de le faire, faites-le. Ah non, c'est trop fatigant. Alors à ce moment-là, vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez, vous vous reposez sur vos lauriers de capacité. Et on est là à dire, mais non, si vous êtes capable, c'est pour l'exercer. C'est pour l'exercer. Vous voyez, l'aspect, la finalité qui apparaît. L'aspect de l'achèvement qui apparaît. Alors, vous pouvez, à ce moment-là, comprendre, en effet, à partir de chacune de ces expériences, ce qui a... L'aspect, la finalité qui apparaît, l'aspect de l'achèvement qui apparaît. Alors, vous pouvez, à ce moment-là, comprendre, en effet, à partir de chacune de ces expériences, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'en effet, la substance demeure la même. C'est extraordinaire. Rien n'est changé du côté de la substance. Les qualités demeurent les mêmes. Capacité de travailler, la qualité, la dynamis demeure la même. Pourtant, tout est changé. Tout est changé. C'est la nuée qui enveloppe la montagne. C'est la nuée. C'est l'exercice, l'acte. L'acte d'être qui apparaît à travers cet exercice. Mais l'acte d'être est plus que cet exercice. Il est ce qui donne la signification à cet exercice. Il est l'au-delà. Vous voyez, alors vous pouvez faire à l'égard de... Ça, c'est tout simplement, vous savez, le cinéma ralenti. Parce que si vous faites la synthèse, vous rien du tout, rien du tout. Ralenti, prenez chaque piste. Chaque piste. Pour chaque piste, faites-le. Puis après, vous rassemblez toutes les pistes. Et puis vous le faites. Oui, c'est important pour nous. Parce que si on ne fait pas chaque piste, c'est impossible. Il faut chaque fois essayer de comprendre l'être en acte et l'être en puissance. Alors à ce moment-là, vous commencez à comprendre. Exactement comme dans une forêt. C'est l'exemple que prend Heidegger, c'est Lichtung et Licht, n'est-ce pas, quand il fait le jeu entre les clairières et la lumière. Les clairières qui sont dans une forêt. Il y a un petit rond-point. C'est mettre en arc le rond-point. Il est très très lumineux, il est très très lumineux. Et les clairières, c'est ça. Les clairières, c'est le point de vue de la modalité particulière. Je suis éveillé, je dors. De point de vue différent. Ça, c'est la clairière. Mais j'aboutis à l'être en acte. L'être en acte, c'est quelque chose, un instantané. C'est la lumière. Et c'est vrai, c'est la lumière. L'être en puissance n'est pas lumineux. Mais l'être en acte est lumineux. C'est ce qui est clair, ce qui donne cette chose tout à fait particulière qui fait que chacun de ses états prend subitement une lumière du côté de son acte. Et vous avez, par le fait même, les six modalités de la fin. C'est quand même intéressant de voir les six modalités de la fin. Les six manières d'être éclairé. Oui, c'est normal, hein. Vous voyez, vous aboutissez, pour avoir toujours ce point de vue-là, vous avez la clairière aboutie au rond-point. Le moment propre de l'aboutir. Au moment propre, il y a un passage. Et ce passage, c'est justement le passage de ces modes particuliers à l'être en acte et l'être en puissance. Et vous êtes tendu vers l'être en acte. Hein. C'est l'être en acte que vous découvrez, c'est pas l'être en puissance. Vous découvrez l'être en acte à travers ces modalités. Et dès que vous avez découvert l'être en acte, vous avez le droit d'avoir un petit regard par derrière l'être en puissance que vous avez laissé tomber. Parce que c'est vrai, c'est l'être en acte que je saisis. C'est pas l'être en puissance, c'est l'être en acte. Mais dès que je saisis l'être en acte, je me distingue de l'être en puissance. Je m'exprime de cette manière-là. Mais c'est pas l'être en puissance qui me fait découvrir l'être en acte. Non. Ce sont toutes ces expériences unies ensemble qui m'obligent de dépasser ces modalités pour découvrir l'être en acte. Et alors à ce moment-là, je découvre vraiment l'être en acte. Et une fois que j'ai découvert l'être en acte, je découvre que cet être en acte se distingue de l'être en puissance. Vous voyez, c'est là la très grosse différence avec la saisie heideggerienne. Je dis ça, c'est parce que je crois que c'est important. Pour Heidegger, il saisit l'être. Et le reste est nié. Quand je saisis l'être en acte, je ne nie pas la puissance. Au contraire, je l'éclaire. Quand je saisis la substance, je ne nie pas la qualité. Au contraire, je l'éclaire. L'être en acte éclaire l'être en puissance. Et il est saisi à l'intérieur, mais au-delà. Il est saisi à l'intérieur parce qu'il est saisi à partir de ses expériences. Et dans chacune de ses expériences, l'être en puissance est présent. Donc l'être en puissance n'est pas absent. Il n'est pas rejeté. Il n'est pas nié. Ça, ce serait la position heideggerienne. Et c'est très important de voir que je ne le nie pas. Je le dépasse. Je le dépasse. Et je le saisis en premier. Et je le dépasse. Je ne le nie pas. Pourquoi ? Parce que l'être en acte n'est pas donné comme subsistant en lui-même. Si l'être en acte était donné comme subsistant en lui-même, ce serait Dieu. C'est bien évident. Mais alors, ce n'est pas la clairière, hein, Dieu. Ce n'est pas le rond-point. Ce n'est pas le rond-point auquel aboutit tout, non ? Mais c'est très important que si je saisissais l'être en acte subsistant, ce serait Dieu. Tandis que si je saisis l'être en acte distinct de l'être en puissance, ça c'est l'intelligence qui saisit un principe ultime, qui saisit quelque chose de dernier. Elle saisit une fin. Et elle saisit à partir de l'être en puissance, comme un au-delà de l'être en puissance. Mais c'est pour essayer de comprendre bien qu'on saisit. Parce que certains l'ont dit, c'est pour ça que je le dis, certains l'ont dit que dès qu'on saisit l'être en acte, on saisit Dieu. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est pas Dieu l'être en acte. L'être en acte, c'est un principe ultime qui est une fin. Donc c'est pas Dieu. Dieu, c'est une réalité. Tandis que l'être en acte, c'est un principe ultime que je saisis à partir d'une induction. Et donc, toujours comme un principe, c'est l'intelligence, c'est le flash de l'intelligence. L'intelligence saisit quelque chose. Quelque chose qu'on saisit d'une manière quelquefois très passagère. Parce que c'est pas commode à saisir. Ça m'échappe. Ah oui, il y a nécessairement quelque chose. Et si vous réfléchissez bien, le vivant qui s'éveille et qui dort, vous dites, mais oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de l'être présentant le vivant, il est en acte. Et quand vous dites ça, vous n'avez pas l'expérience de l'être en acte. Hein. À partir de votre éveil, vous avez l'expérience, vous posez l'être en acte. À partir de votre éveil, dont vous avez conscience, vous posez quelque chose de radical et d'ultime, l'être en acte. Lisez la nuit. Bon, une fois que j'ai réalisé cette induction, oui.
Il me paraît que quand on traite ces différentes expériences, ces différentes activités, on revient sur le niveau de la vie.
Oui.
Je ne comprends pas comment on peut pouvoir de là passer de la vie à l'être, parce que l'être quand même.
Mais l'être. Vous le saisissez en dehors de la vie. Le jugement d'existence, ceci est. C'est à travers le vivant, je suis. Ah, je suis quand même un vivant.
J'ai toujours peur qu'on va réduire
Ah oui, moi aussi j'ai toujours peur de ça parce que j'ai peur. J'ai peur, enfin, j'ai tout à fait d'accord avec vous, c'est pour ça que je dis, vous voyez, les avenues, puis le point central, le point de départ, le terrain sur lequel je pars, et mon jugement d'existence, il est là présent. Je ne quitte jamais le jugement d'existence quand il s'agit d'une induction. Il y a l'interrogation, c'est l'interrogation qui vous permet de filer. Parce que vous ne regardez pas assez l'interrogation. Votre interrogation vous montre l'orientation de votre intelligence et vous oblige de passer au-dessus. Mais vous êtes obligé de revenir à l'expérience, votre métaphysique, elle se fait au bout de vos doigts. Votre métaphysique, elle se fait dans le jugement d'existence. Si vous quittez le jugement d'existence, vous retombez dans l'universel, vous retombez dans les idées. Et c'est à partir des idées que vous découvrez l'acte. Et à ce moment-là, vous ne découvrez rien du tout. Vous restez dans l'idée. Vous voyez ? Parce que je pourrais dire, mais oui, je vais partir de la suite. Vous voyez, l'autre système, ce serait ça. Hein? Alors là, je vais répondre tout de suite à vous. L'autre système, hein, c'est ça votre petite tentation. Hein? Petite tentation intellectuelle. Hein? Votre tentation intellectuelle, c'est de dire, j'ai découvert la substance comme arte. J'ai découvert la substance comme principe, distinct de la qualité. Eh bien oui, hein. Je vais me servir de ce principe pour découvrir un sur-principe. Alors là, un sur-arché. Alors là, très très bien, je me sers de la substance pour dire, il y a quelque chose de plus que la substance. Il y a l'acte. Est-ce que je peux faire ça ? On ne peut pas se servir d'un principe. Un principe, c'est quelque chose d'ultime. La substance, elle est ultime. Elle est indivisible, elle est ultime. Il n'y a pas de sur-substance. Pas du tout. Vous voyez ? Là, je resterai, je dirais, c'est merveilleux. Je pars au moins de quelque chose qui n'est plus sensible, qui n'est plus visible, qui n'est plus plancher des vaches. Je me sers de quelque chose de beaucoup plus profond. Arqué, et seuls ceux qui ont saisi la substance peuvent entrer dans l'acte. Vous voyez, alors la clé. Hein? Si vous n'avez pas saisi la substance, impossible, puisque je parle de la substance pour saisir l'acte. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne saisirez jamais l'acte à partir de la substance. Impossible. Puisqu'il s'agit de dépasser la substance. Il s'agit de dépasser la substance, mais la dépasser en la respectant. La substance, elle existe comme un principe. C'est pour ça que j'ai dit la nuée. La substance, c'est un monde merveilleux. Hein? C'est un monde. Alors, la nuit est autour, mais il s'agit de la capter. Comment la capter? Comment la saisir? Comment saisir cet au-delà de la substance? Cet au-delà de la substance, c'est revenir à l'expérience. Je reviens à l'expérience. Et l'expérience qui me donne ces deux états dans la réalité. Et ces deux états dans la réalité me posent une question. Mais qu'est-ce qui se fait que... Il y a ces deux états. Et alors à ce moment-là, je saisis le, voyez, je saisis l'acte à partir de ces deux états. Je le saisis plus du tout comme une détermination. Je le saisis comme un au-delà de l'exercice, comme un au-delà de ces termes, de ces fins particulières. Et je le saisis comme la fin même de l'être. Tandis que si vous partiez de la substance, vous auriez une sur-substance, une super-substance. Et alors vous direz, mais alors ce serait, vous voyez, la substance est universelle, voilà, c'est merveilleux, c'est quelque chose d'universel. Alors là, je suis en face d'un super-universel, n'est-ce pas, qui est l'acte. Non, pas du tout. L'acte, l'acte est lié à l'être. Si l'acte est lié à l'être, parce que c'est l'être en acte, l'acte est lié à l'être. Si l'acte est lié à l'être, il est lié à mon jugement d'existence. Et mon jugement d'existence me met en contact. C'est là où il y a une continuité. Vous voyez ? Du jugement d'existence, autrement dit. Du jugement d'existence, ceci est. J'induis l'ousia. J'induis l'être en acte. L'émergence. Et tout ça, c'est dans ceci et vu du point de vue de l'être. Dans le jugement d'existence. Mais comme c'est difficile de saisir dans le jugement d'existence d'être en acte, Je prends ce jugement d'existence selon ces six modalités, les six visions à travers le maquis. Le maquis de ce qui est concret, qui est difficile. Alors, je saisis à travers ces six expériences qui me montrent les possibilités que j'ai de regarder l'être dans cet exercice, je saisis l'être en Marx, comme ça. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. C'est vraiment la fin de ce qui est. Oui. Alors ça, c'est très important de comprendre que plus je dois m'élever haut, plus je reviens à l'expérience et au jugement d'existence. Le jugement d'existence est présent dans toute induction philosophique. Autrement, c'est impossible. Oui, mais nous avons vu que l'analyse du langage, c'était qu'un signe, pas plus. Je ne peux pas aller plus loin dans l'analyse du langage. Le langage lui-même est un signe. Donc je ne peux pas. Le langage me renvoie à la pensée. Alors je ne peux pas saisir l'acte uniquement à partir de la pensée. Ce n'est pas parce que j'ai un concept que je veux saisir l'acte. L'acte n'est pas, l'être en acte n'est pas dans le concept. Il est dans la réalité que j'expérimente. Oui. Alors, ce serait intéressant, évidemment. Ce serait très intéressant de voir, si on voulait, ce serait peut-être une manière du reste pédagogique, de montrer toutes les fausses pistes. Oui. Exactement comme fait Aristote au point de vue de la substance. Il ne le fait pas pour l'acte. C'est très curieux, il est précis. Elle ne le fait pas pour l'acte. On pourrait montrer toutes les fausses pistes. Première fausse piste, ici. Deuxième fausse piste, langage. Vous déterrez toutes les fausses pistes. Alors, si vous en avez encore d'autres pour le dire, déterrez toutes les fausses pistes. Alors, vous, voie sans issue. Il ne faut pas aller plus loin. Impossible. Quand je touche l'arché, je touche l'arché. Je ne peux pas toucher plus qu'un principe. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Donc je suis obligé, si je veux saisir autre chose, et le langage m'a montré qu'il y avait autre chose à saisir, il y avait l'exercice de la réalité. Je suis obligé de revenir à l'expérience. Toute simple, l'homme en état d'expérience. Or l'homme en état d'expérience, mais puisque ma philosophie présuppose tout ça, je vais prendre tous ces points de départ. Comme je sais que c'est très difficile, comme je sais que cette induction est difficile parce que c'est l'induction de la fin, et que l'induction de la fin est toujours beaucoup plus subtile que l'induction de la détermination, je sais ça par expérience, il y a déjà eu des inductions à travers tout ça, et il y a eu déjà des inductions du point de vue de la finalité, je suis obligé de reprendre ça. Voyez, la grande tentation, c'est, ça serait intéressant à noter aussi, c'est de comprendre l'induction de l'être en acte parallèlement à la phusis. C'est vrai que je découvre d'abord la phusis forme. Et à partir de là, je découvre la phusis fin. Alors, si vous restez dans le schéma du devenir, vous ferez le parallélisme. Vous direz, mais oui, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai. Quand il s'agit de saisir la phusis, la nature fin, je la saisis à partir de la nature forme. Et la nature forme, je la saisis à partir de la phusis efficiente. La phusis efficiente me conduit à la forme et la forme me conduit à la fin. Et je n'ai qu'une seule induction. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de l'ousia, je ne peux pas faire ça. Alors pourquoi? Posez-vous la question. Parce qu'alors c'est comme ça que vous allez comprendre. Pourquoi, quand il s'agit de la philosophie de la nature, quand il s'agit de la philosophie de la nature, je découvre la phusis, la nature, cause efficiente, immanente à ce qui est nul. Cette immanence de la phusis me fait découvrir la phusis forme et la phusis matière. Et quand j'ai découvert la phusis forme et la phusis matière, je peux découvrir la phusis fin. Pourquoi ne puis-je pas faire exactement la même chose du côté de l'être? C'est tellement plus simple. Alors à ce moment-là, je n'aurai qu'une seule induction, l'induction de la substance. Et au fond, c'est ce qu'a fait un peu la scolastique. Mais scolastique a tout simplement gardé, c'est un fait, hein, il n'y a qu'à regarder les manuels scolastiques, jusqu'au cœur de finance. La scolastique, de fait, a gardé ce fait de l'induction de la substance, tant bien que mal. Et puis, on a dit, tout simplement, à partir de là, on saisit la fin. Donc, on a gardé le chêne du devenir qu'on a plaqué sur l'être. Pourquoi, quand il s'agit du devenir, je peux passer de la phusis forme à la phusis fin? Et pourquoi, quand il s'agit de l'être, je ne peux pas passer de la substance à l'acte? Réfléchissez là-dessus. Là, c'est très bon.